Offre de pouvoir écouter sa parole et de pouvoir méditer ensemble, de pouvoir entendre sa voix, c'est ça qui nous donne la vie. Et nous lisons Matthieu au chapitre 5. Matthieu au chapitre 5. Donc nous rappelons que nous faisons une pause par rapport à notre série Bérian l'explorateur, et actuellement nous sommes dans le livre des psaumes et nous voyons l'importance que les psalmistes, parce qu'il y en a plusieurs, nous donnent de l'importance de la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu et ce que la parole de Dieu produit. C'est ce que nous avons vu les semaines qui ont précédé, combien la parole de Dieu est une lumière, une lampe qui nous éclaire, et nous voulons encore aujourd'hui que le Seigneur nous parle et qu'il nous éclaire au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous conduire et de nous parler. Nous avons soif de toi, besoin de toi. Viens prendre la première place, le contrôle, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire. Amen. Nous lisons Matthieu 5, au verset 8. Matthieu 5, verset 8, comme nous avons l'habitude de dire Matthieu 5, c'est si on veut savoir ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien, la réponse se trouve dans Matthieu 5. C'est comme tous les livres de la Bible sont des trésors, et celui-là est un condensé de ce que Dieu attend. Et nous lisons verset 8, il nous est dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » C'est ça l'objet de notre partage, étude ce soir, et nous rappelons que nous avons la possibilité d'interagir, de poser des questions ou d'apporter des observations. Alors voilà ce que le Seigneur Jésus dit lorsqu'il parle, il prêche à la foule. Il dit un certain nombre de choses, et parmi ces choses, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc, on comprend que, finalement, pour voir Dieu, il ne suffit pas de faire des choses. Il ne suffit pas d'accomplir des actes qui nous qualifieraient, qui nous donneraient une certaine légitimité de pouvoir voir Dieu. On nous dit non, en réalité, voir Dieu, c'est un état de cœur d'abord. Et on nous dit quel cœur ? Le cœur pur. Alors la question que je me suis posée, et je nous la pose aussi, qu'est-ce que cela évoque pour nous, un cœur pur ? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir pour dire qu'est-ce que cela évoque pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Ça ne s'arrête pas là. On nous dit « Car ce sont ceux-là seulement qui pourront voir Dieu ». Alors, bien-aimés, l'objectif de tout ce que nous faisons aujourd'hui, l'objectif de notre marche chrétienne, l'objectif de toutes les missions que nous pouvons faire, l'objectif de tous ces temps d'adoration que nous avons, l'objectif, la finalité, c'est quoi ? C'est être avec Dieu. Mais c'est ça la finalité. Il n'y a pas autre chose. La finalité, c'est qu'un jour, on soit avec notre maître dans le ciel. C'est ça l'objectif. Et c'est important de comprendre, vous savez, quand on s'engage dans une activité, on doit calculer à la dépense, mais surtout, on doit penser, se poser la question, à quoi ça m'amène? À quoi ça me conduit? Quelle est ma finalité? Quel est mon objectif? Si on ne se pose pas ces questions-là, alors on est comme des, vous savez, des vagabonds. Un vagabond, c'est, ou un badaud. Un badaud, c'est quelqu'un qui se balade sans objectif précis. Il va à Grand Couronne, il va à la mairie, il voit qu'il y a une bagarre, il s'arrête. Il va à tel endroit, il voit qu'il y a un magasin, il s'arrête. il voit, il n'a pas d'objectif précis. Or, nous, en tant que chrétiens, l'objectif, c'est le ciel. L'objectif, c'est d'être avec notre Père. L'objectif, c'est de régner avec le Seigneur, là-haut, dans le ciel. C'est ça l'objectif en tant que chrétien. Donc, on a une, excusez-moi, finalité dans notre marche avec le Seigneur. C'est ça. Et là, le Seigneur résume en disant finalement, de tout ce que nous faisons, pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Alors la question, c'est quoi le cœur pur? Parce que moi, quand j'ai lu ce passage, ça a évoqué en moi, finalement, plusieurs questions. Et je voudrais que ces questions émanent aussi de nous tous. Qu'est-ce que cela évoque? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, qui souhaite dire ce que cela peut évoquer?
Pour moi, ça m'évoque quelqu'un qui n'a pas le cœur tortueux, quelqu'un qui ne va pas garder, qui ne va pas vouloir vivre avec le péché, qui va toujours mettre les choses à la lumière, toujours garder son cœur propre devant Dieu. Quelqu'un, entre autres, ça, voilà, ce que ça m'évoque tout de suite.
Mais dans ce que dit la sœur Mireille, moi je retiens ce que sœur Mireille dit, quelqu'un qui ne garde pas le péché. Est-ce que ceux qui sont là sont d'accord avec ce qui a été dit? Donc, on comprend déjà, par ce qui a été dit là, que finalement, un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui ne pêche pas. Est-ce qu'on est d'accord? Puisque moi, c'est ça qui m'est venu. Je me suis dit, oh. Mais le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En même temps, Romains 3, 23 nous dit que tous et sont de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Donc, ça paraît contradictoire. Moi, ça m'a dérangé. Je me suis dit, mais finalement, tous ont péché. Et on nous dit même, il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais en même temps, on nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc, dans ce que la sœur Mireille nous dit, c'est que c'est un cœur qui ne garde pas le péché, qui ne garde pas le mal. Donc, c'est important de noter ça. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui ne pêche pas. Quoique Dieu, par son esprit, en Jésus, nous donne la capacité de vivre sans péché, mais il peut arriver qu'on trébuche, qu'on pêche, mais le cœur pur, c'est celui, comme a dit la sœur Mireille, qui est tout le temps en éveil pour laver le cœur. C'est ça, une définition. Oui, Rodrigue? Ah, pardon, je n'ai pas vu.
Pour moi aussi, je trouve que quelqu'un qui aime le Seigneur de tout son cœur, et quoi qu'arrive la situation ou quelque chose qui peut changer dans sa vie, que le Seigneur il soit la première place, qu'il compte sur lui, que son cœur il attache vraiment avec le Seigneur.
Un cœur qui est attaché au Seigneur, quoi qu'il arrive. Voilà. Bien-aimés, vous savez, le partage qu'on fait là, c'est un partage. Moi, j'aime bien que ça soit interactif parce que ce n'est pas à l'université où on arrive, le prof dans son amphithéâtre donne son polycopié, fait son exposé. Ce sont des choses qui sont importantes pour nous tous, moi le premier. Et parfois, c'est important de s'arrêter sur un verset et d'aller dans c'est ça la méditation, c'est-à-dire qu'on se pose des questions et on va en profondeur. Mais l'objectif, c'est de recevoir le message du Seigneur. Quel est le message de Dieu? Et maintenant que j'ai écouté le message de Dieu, quelle décision je prends pour moi? Parce que la finalité de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ce que nous voulons dire, c'est que le Seigneur veut transformer nos cœurs. Le Seigneur veut amener nos cœurs à être purs chaque jour. Le Seigneur veut nous faire prendre conscience de ce verset-là. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On se rappelle dans Matthieu 7, il y a des gens qui ont fait des choses pour le Seigneur, qui ont eu des activités, mais le Seigneur dira à ces gens-là, retirez-vous de moi, car vous êtes les ouvriers de, comment? L'iniquité, c'est quoi? C'est le péché. Voilà, tout simplement. Vous voyez que tous les versets se coupent, et l'étude qu'on fait, c'est pour comprendre, en prendre verset par verset, et ensuite comprendre finalement qu'il y a une jonction entre tous ces versets-là et ça se recoupe. Et c'est important de faire ce travail-là et c'est ce qu'on fait par la grâce de Dieu. Oui, Rodrigue ?
Bon, moi, quand j'ai lu ce verset, ça m'a pensé à l'état d'un enfant parce que Jésus même, lui-même, il a dit « Il faut laisser venir les enfants à lui et il faut être dans un état de ceux qui sont comme les enfants, qui sont prêts à pardonner en toutes circonstances. » Et un enfant, c'est quelqu'un qui est soumis à l'autorité de ses parents. Donc, on est capable de pardonner quelle que soit la situation et en même temps, être soumis à l'autorité qui, de notre côté, nous avons été baptisés, la nouvelle naissance, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, on pardonne et on reste soumis à l'autorité du Dieu très haut.
Ok. Donc, dans ce que dit Rodrigue, on a encore une autre notion. C'est un cœur pur, c'est un cœur qui est semblable à celui d'un enfant, quelqu'un qui est candide. Et vous allez voir que lorsque nous lisons Matthieu 18, à partir du verset 1er, il y a aussi un lien avec ce qu'on a vu, toujours le fait de voir Dieu ou alors d'entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 18, à partir du verset 1er. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il dit « Si... » Je vous l'ai dit, pardon, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez qu'il y a la même idée, voir Dieu, entrer dans le royaume de Dieu, parce que tu ne veux pas entrer dans le royaume de Dieu sans voir Dieu, finalement. Non. Donc, tout est lié. Mais vous voyez que quand on lit verset par verset, finalement, on recolle le morceau, on comprend finalement quelle est la pensée de Dieu et un enfant... Quand la Bible parle d'enfant, l'état d'enfant, c'est un état d'innocence d'une certaine manière. C'est un état où on oublie, comme ça a été dit, un enfant, observant les enfants, nous allons voir comment ils fonctionnent. Un enfant peut être contrarié aujourd'hui, mais 5 minutes après, son père, c'est son père. Sa mère reste sa mère. Bon, les adultes, c'est moins vrai, c'est moins évident, parce que quand il a une dent contre toi, l'orgueil portant encore dessus... C'est très plus compliqué, mais un enfant, voilà, c'est comme ça, c'est le fonctionnement qu'il a, voilà. Il est contrarié, mais 10 minutes après, il va revenir jouer sur les genoux. Il va revenir parfois jouer avec la barbe, le menton, voilà, parce que c'est son père, c'est sa mère, c'est comme ça. Et c'est cet état-là que le Seigneur veut que nous puissions avoir aussi. Et au verset 4, hein, il dit que celui qui est humble, comme un petit enfant, eh ben, lui... Il sera grand dans le royaume des cieux. Voilà. Alors, on voulait placer un petit peu le décor pour comprendre tous qu'est-ce qu'un cœur pur. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui ne pêche pas, mais c'est un cœur qui est attaché à Dieu, comme ça a été dit, quelles que soient les situations. C'est un cœur qui est prompt à se repentir. C'est un cœur qui, quand il fait mal, est prêt à reconnaître. Et tout ce qui a été dit là, ce sont des points que... Nous allons voir, et c'est un cœur aussi qui est humble. C'est un cœur d'enfant. C'est ça, le cœur pur que le Seigneur attend de nous. Et nous lisons Luc chapitre 23. Il y a des, oui, interventions. Entre-temps, nous prenons Luc chapitre 23.
Oui, bonjour. Ce ne sont pas des interventions, mais les internautes complètent un peu, donnent leur définition du cœur pur. Il y a un internaute qui dit « Un cœur pur, c'est un cœur qui est rempli d'humilité et de simplicité. »
Amen, amen. Ça rejoint un peu, oui.
Voilà. Il y a un autre qui dit « C'est un cœur qui reconnaît sa petitesse, sa faiblesse, ses péchés et qui laisse le Seigneur régénérer son cœur. » Et un autre dit « C'est un cœur qui ne soupçonne pas le mal, qui ne souhaite pas le mal. » Voilà les commentaires de quelques internautes.
Sois béni. Donc nous lisons Luc chapitre 23. Donc c'est l'histoire de Jésus avec les deux brigands. Moi, c'est une histoire que j'aime beaucoup, cette histoire-là, parce que c'est c'est une photographie du monde dans lequel nous sommes et de l'état des humains de manière générale. Donc nous lisons Luc 23 à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, bien aimé, on a dit notre thème, c'est un cœur pur ou des cœurs purs. Et nous voyons qu'il est toujours question d'entrer dans le royaume des cieux, Matthieu 18. Il est question de voir Dieu, Matthieu 5, 8. Et ici, il est question d'être dans le paradis avec le Seigneur, finalement, toujours être, voir Dieu dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et alors, on voit une scène. Il y a deux malfaiteurs qui sont crucifiés. Et il y en a un qui reprend Jésus en disant, mais n'es-tu pas le Christ ? N'es-tu pas, finalement, le Messie, le Sauveur ? C'est ça, son idée. Mais toi, tu te dis Sauveur, mais sauve-toi. Et une fois que tu te seras sauvé, tu pourras nous sauver aussi. Ne nous laisse pas dans cette situation. Et l'autre, on nous dit, le reprenait en disant, mais toi, tu ne crains pas Dieu. Regarde, nous, ce que nous vivons, c'est ce que ont mérité nos crimes. Finalement, c'est la justice qui s'applique. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Et il se tourne vers Jésus, il lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, le point principal d'un cœur pur, c'est de reconnaître Jésus, de reconnaître le salut de Dieu, de reconnaître d'où vient le salut. Parce que, vous voyez, cette histoire que nous venons de lire là, c'est l'histoire de l'évangile. Hein. 1 Corinthiens 15, 1 à 3, où l'apôtre Paul nous donne le résumé. On n'a pas le temps de le lire, mais l'apôtre Paul dit que l'évangile que nous avons annoncé et qui vous a été prêché, selon lequel Jésus-Christ est mort à la croix, il s'est donné à la croix, il est ressuscité le troisième jour. Et désormais, nous avons maintenant, par la grâce de Dieu, accès à cette vie éternelle qu'il nous donne. Et ce processus-là, on le voit ici. Un homme qui reconnaît d'abord son état, mais qui reconnaît aussi qui est à côté de lui, qui reconnaît qui est Jésus. C'est ça, bien-aimé. Un cœur pur, c'est celui qui met Jésus au centre de sa vie. C'est ça un cœur pur. Vous savez, on a beau avoir toutes sortes d'arguments, de polémiques. Mais la question c'est, quelle est la place du Seigneur dans ta vie? Et cet homme-là a été sans ambiguïté. Vous savez, quand je lis cette histoire-là, cet homme est juste. Mais sa justice le conduit à quoi? À accepter la peine qui lui arrive. Tant de fois, qu'est-ce qui nous arrive? Quand on vit des choses difficiles, on a tendance à accuser Dieu. Mais où est Dieu? Mais j'ai tout fait correctement. Mais j'ai été intègre. Mais Seigneur, mais pourquoi? Mais je ne comprends pas. Pourtant ceci, pourtant. Mais vous voyez cet homme-là? Il dit, moi, ce qui m'arrive, c'est juste. Puisque je suis un homme mauvais. Soyons honnêtes, bien-aimés. Regardons l'attitude de cet homme-là. Soyons honnêtes. Quand nous vivons des choses qui nous dépassent, quelle est notre réaction? Mais il ne s'arrête pas là. Il se tourne vers le Seigneur en disant, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Le Seigneur lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Bien-aimé, c'est ça le centre de notre exhortation. Le cœur pur, c'est celui qui regarde à Jésus. C'est celui qui reconnaît Jésus. c'est celui qui entend la voix du Seigneur. Vous savez, dans Jean 10, Jésus le dit, il dit « Je suis le bon berger ». Et il dit quoi ? « Mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent. » Et elles font quoi ? Elles me suivent. C'est ça le cœur pur. Le cœur pur, c'est celui qui cherche à s'identifier à son maître Jésus. Luc 6, 40 nous dit, on peut le lire, hein? Luc 6, verset 40. Verset à mémoriser, Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli, c'est-à-dire tout disciple parfait, achevé. Donc, dans l'idée d'accomplissement, c'est commencer un travail et aller jusqu'à l'achèvement du travail. C'est ça. Quand Jésus dit dans Jean 19, 30, tout est accompli, c'est-à-dire que il a commencé le travail en quittant le ciel, en venant sur la terre, en donnant sa vie, en mourant à la croix, en allant jusqu'au bout, et ensuite, il pourra dire le travail est accompli. C'est ça. Et ici, on nous dit que tout disciple accompli sera comme le maître. À l'image du Seigneur, c'est cela. Et c'est ce que cet homme-là a vu en Jésus. Il a su voir la réalité de son état à lui, mais la réalité du Seigneur Jésus. C'est ça, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Il y a parfois des attitudes qui nous agacent. Mais la question à se poser, c'est dans ma réaction, comment le Seigneur réagirait ? Dans ma situation, que dirait le Seigneur Jésus ? Dans ma position, que ferait le Seigneur Jésus ? C'est ça, bien-aimé. Et cet homme-là regarde le Seigneur. Il dit, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, toi, tu as compris. Pourtant, on nous dit que c'était deux malfaiteurs. C'était des hommes mauvais. On ne sait pas quel crime ces hommes ont commis pour être dans cette situation. Et ils étaient deux. Mais il y en avait un qui avait un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur disposé à recevoir le salut que Dieu donne. C'est ça, un cœur pur. Parce que certains diront, oui, mais lui, il a reçu une grâce particulière, mais oui, mais non, mais on nous dit qu'il y avait deux hommes qui étaient à la croix. L'un disait ceci, l'autre disait cela. On ne nous dit pas que l'autre, le deuxième, peut-être que dans sa vie antérieure, il a eu des croyants. On ne sait pas, on ne nous dit pas. Et si on ne nous dit pas, on n'a pas à spéculer là-dessus. Mais tout ce qu'on nous dit, c'était deux malfaiteurs, deux hommes mauvais. Mais il y en a un qui a fait preuve d'arrogance et un autre qui s'est fait petit, qui a reconnu que ce qu'il vivait, c'était la justice de Dieu, mais qui s'en est remis au maître. C'est ça, bien-aimé. Et ce texte nous montre le salut, comme il est écrit dans Éphésiens 2, à 8 à 10, que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Et il n'y a aucune œuvre qui peut être revendiquée ou plébiscitée pour dire, voilà, j'ai fait. Non, qu'est-ce que cet homme a fait ? Cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait pour entrer au paradis ? Il a tout simplement cru en Jésus, c'est tout. Mais il a été honnête, un cœur pur, c'est un cœur qui est honnête. C'est ça. Il a été honnête pour dire non, moi, ce que je vis, c'est normal. Et comme je disais tout à l'heure, bien souvent, nous sommes malhonnêtes face aux situations. Parfois, il y a des choses difficiles qui nous arrivent. Mais on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais en réalité, on sait pourquoi. Oui, il y a une intervention. J'entends pas.
On est en train d'évangéliser, par exemple, avec quelqu'un qui veut connaître le Seigneur et tout. Du coup, tu lui dis, ce que tu fais, c'est pas beau et tout. Et du coup, elle te répond, oui, je sais, mais j'y arrive pas et tout. Est-ce que, comme il sait qu'il fait pas des choses bien, mais qu'il a pas la foi, quand même, le Seigneur, il le voit pas comme quelqu'un qui a un cœur pur?
Non, c'est-à-dire que ce cœur pur va, à un moment donné, se manifester par la décision que tu vas prendre. C'est ça.
Et si ça tombe que ce jour-là, c'est, par exemple, le jour où le Seigneur vient chercher ses héris, est-ce qu'il fera partie de quelqu'un qui...
Ah non, le Seigneur sauvera ceux qui auront cru, ceux qui auront accepté son salut. Maintenant, nous, notre travail à nous, c'est d'annoncer la parole. Vous savez, il y a le verset dans Luc 15, je crois, où on nous dit que le bon berger va chercher la brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Et on nous a même prêché une fois, ça remonte à plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il la trouve. Bien aimé, quand moi j'ai lu ce passage, on comprend que la volonté de Dieu, c'est de sauver. Et on nous dit que le bon berger va chercher la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Donc c'est-à-dire que toi, quand toi tu as parlé, parfois tu peux rentrer chez toi avec une déception en te disant « mais on y était presque ». Mais sache que l'Esprit de Dieu, lui, va continuer le travail. Maintenant, libre à la personne d'accepter ou de refuser. On se rappelle l'histoire de Saul de Tarse dans Acte 9, quand le Seigneur se révèle à lui, il lui dit « mais pourquoi tu résistes ?» Pourtant, qui voyait qu'il résistait? Personne. Mais Dieu, lui, savait qu'il y avait déjà un travail qui était fait. Et Dieu lui dit « tu ne pourras pas résister ». Et il a fini par céder en disant « mais Seigneur, qui es-tu ?» Donc voilà, donc nous, notre part à nous, c'est pour nous aider aussi, c'est Matthieu 13. La parabole, qui connaît la parabole de Matthieu 13? On nous parle de la parabole du semeur. On nous dit que le semeur est passé, il a jeté la semence sur le sol. Voilà, nous sommes comme ce semeur-là. Voilà, on jette la semence et la terre, c'est le problème de Dieu. Dieu, lui, sait. Parfois, nous, on veut se dire, mais lui, il est quelle terre? Est-ce que c'est la terre aride? Est-ce que c'est la terre rocailleuse? Non. Toi, on te demande de mettre. Après, le reste, c'est Dieu qui va faire le travail. Donc, c'est ça le conseil que je nous donne. Mais toujours est-il que le Seigneur veut sauver les humains et il va utiliser différentes situations pour le faire. Mais c'est nous, le travail que nous faisons, c'est d'annoncer la parole et prier pour que les cœurs soient disposés. C'est ça. Mais la volonté de Dieu, c'est celle-là. C'est de sauver, comme on nous dit, jusqu'à ce qu'il la trouve. Il va aller, il va employer les moyens, en tout cas, pour le faire. C'est ça. Et c'est ce que nous voyons. Et bien aimé, c'est ça, le Seigneur veut sauver. Et le cœur pur, c'est celui qui sait reconnaître. Vous savez, Zachée, lorsque Jésus vient chez lui, on nous dit que Zachée était un homme mauvais, un publicain, un homme de mauvaise vie. On nous précise cela. Un homme de mauvaise vie. Certainement escroc. S'enrichissant de façon malhonnête. Mais on nous dit que cet homme, quand Jésus entre chez lui, Zachée est convaincu au fond de lui. Le péché. Il dit à Jésus, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de restituer tout ce que j'ai pris de façon malhonnête. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Bien-aimé, c'est cela. Je voulais insister là-dessus. Le cœur pur, ce n'est pas le cœur qui ne pêche pas. Le cœur pur, c'est le cœur qui sait reconnaître qu'il a besoin de Jésus, qui sait reconnaître qu'il est perdu, qui sait reconnaître que malgré tout ce qu'il peut avoir autour de lui, en réalité, il n'est rien du tout. Il a besoin du Seigneur. Et c'est ce que cet homme Zachée, un homme de mauvaise vie, a vécu. C'est ça, bien-aimé. Le cœur pur, c'est celui qui sait reconnaître le Seigneur. C'est celui qui sait faire appel au Seigneur. C'est celui qui sait mettre ses regards sur le Seigneur en disant, Seigneur, aide-moi. C'est ça le cœur que le Seigneur attend, bien-aimé. Un cœur disposé comme ça. Un cœur pur, un deuxième point, s'il n'y a pas d'intervention, c'est un cœur, c'est une attitude de repentance. Je ne parle pas seulement de la repentance elle-même, mais une attitude, c'est-à-dire dans un fonctionnement de repentance. Nous lisons Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. C'est l'histoire du publicain et du pharisien. On nous dit, à partir du verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé, un cœur pur, c'est un cœur repentant. C'est ça un cœur pur. C'est un cœur qui ne garde pas le mal au fond de lui, non, qu'il expulse, qu'il le reconnaît. Question, quelle différence fait-on entre, en même temps sans les révisions, la confession et la repentance? Le micro peut circuler. Quelle différence? Est-ce qu'il y a une différence déjà et laquelle?
Oui, il y a une différence. La confession, on confesse son péché. Et la repentance...
Ah, tu as parlé de la confession avec confession, mais... tu as dit la confession, on confesse son péché. Est-ce que tu peux employer un synonyme ou un autre mot pour...
On dévoile son péché, on le dit, on l'avoue, voilà, merci, on avoue son péché. Et puis, la repentance, en fait, c'est un état de cœur où on n'est plus d'accord avec ça, où on ne veut plus continuer avec ça, on se repent.
Ok, quelqu'un a quelque chose à rajouter? À peu près ou la même chose? Peut-être que tu as d'autres mots, peut-être qu'ils vont nous... C'est bon? Ok. Mais est-ce qu'on peut avoir un texte qui peut nous illustrer ce que la sœur Mireille vient de dire là? Quel texte peut nous illustrer? Est-ce qu'il y a un texte qui existe qui peut nous illustrer ce que tu viens de dire? Sur la repentance. Où on décide finalement de ne plus continuer comme ça. Finalement, on prend la décision de changer les choses, quoi. Est-ce qu'il y a un exemple? Il n'y a pas de question piège, hein.
Sur le coup, j'ai pas vraiment de texte en particulier, mais sinon, je vais penser à différents personnages, comme l'attitude de Pierre suite à son reniement, ou l'attitude de Paul suite au fait que le Seigneur le saisisse. Si, il y a aussi David, le roi David, quand le prophète est venu le voir pour lui dire, lui citer l'histoire de la brebis et qui lui a dit cet homme c'est toi. David a confessé son péché et ensuite il s'est repenti.
On vient de lire il y a à peine quelques minutes où Jésus il est venu dans la maison de Zachée, un pécheur. Et quand il est venu, Zachée il s'est rendu compte qu'il était pécheur. Et il a pris la décision, sachant qu'il était pécheur, il a pris la résolution quand Jésus l'a visité de dire « Je reconnais que je suis pécheur et à tous ceux qui ont fait du mal, je prends la décision de leur donner » de rendre tout ce que j'ai pris à ceux-là, et pour même ce que j'ai oublié, je donne la moitié de tout ce que je possède pour pouvoir compenser cela. Donc il prend une résolution au-delà de ce qu'il a fait de mal. On voit clairement dans ce verset la repentance de Zachée par rapport à tout ce qu'il a fait de mal dans le passé, dans sa vie.
Ok, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Donc là, nous sommes sur la nuance entre la confession et la repentance. La confession, c'est dire qu'on a mal fait, c'est reconnaître qu'on a mal fait. Mais la repentance, c'est non seulement le reconnaître, mais prendre des dispositions, prendre des mesures. Voilà, décider clairement. Et oui, d'une certaine manière. Et donc, on va lire une histoire. C'est important de... Oui, il y a...
Ouais. C'est juste une internaute qui dit que la repentance, c'est qu'on réalise qu'on a tort, que Dieu a raison, qu'on s'est trompé et on décide de faire un demi-tour. C'est-à-dire que c'est changer de voie. Et il dit la confession, c'est tout simplement avouer. Et il dit, notez bien, on peut se confesser sans se repentir.
Voilà, c'est le commentaire de l'internaute. C'est ça. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que beaucoup... d'entre nous, on confesse quelque chose, mais on ne va pas toujours jusqu'au travail de repentance. On a confessé, oui, c'est vrai, bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais on ne va pas jusqu'à la source. Ce qui fait que, et c'est ça l'exemple que je donne souvent, quelqu'un m'appelle pour dire, bon, pasteur, prie pour moi parce que je suis irritable, je me mets tout le temps en colère, mais il confesse qu'il a un problème. C'est pas normal, je me mets tout le temps en colère. Et On va prier, mais le problème est toujours là. Parce qu'en réalité, on ne va pas au fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'en réalité, tu te mets tout le temps en colère parce que tu es contrarié quand les choses ne vont pas comme tu veux. Le vrai problème, c'est l'orgueil. Vous voyez comment souvent, on se trompe de cible. Oui, mais je ne comprends pas. Oui, mais en réalité, ton problème, ce n'est pas la colère. La colère, vous savez, on va parler en termes médicaux, hein. Ta colère, c'est juste un symptôme. Vous savez, quand tu as la fièvre, tu vas chez le médecin, tu dis, docteur, j'ai la fièvre. Ah, mais oui, mais la fièvre pour le docteur, ça ne veut rien dire. La fièvre est le témoignage que oui, il y a un problème. Maintenant, on va voir, on va éliminer maintenant. Bon, il va peut-être te donner des antibiotiques, il te dit, bon, on se retrouve dans 7 jours. Et si ça perdure, il va prescrire une prise de sang parce que il procède par élimination pour aller jusqu'à la source. Et c'est ça un peu l'idée de la repentance, c'est qu'on va à la source. Bien aimé, ce que je dis est vrai, parce que quelquefois, il est arrivé de discuter avec une personne qui confesse, mais quand tu creuses un peu pour aller plus loin, la personne refuse, elle se fâche. Oh, mais toi, tu dis que tu as eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Bon, allons maintenant au bout pour voir, parce que si le problème n'est pas traité à la source, mais ça va revenir. Ça va revenir. Et c'est ça, la différence, c'est que la repentance, c'est que non seulement on confesse, mais il y a l'idée de la résolution. Quelle décision je prends? Et le texte que j'attendais qu'on dise, c'est Luc 15, hein, verset 11, le fils prodigue. On voit dans ce texte-là, on voit la démarche de ce fils-là. Non seulement il reconnaît, mais il prend la décision, on peut le lire, hein, d'aller voir son père pour dire, écoute, j'ai mal fait. Mais on va voir aussi ce qu'il dit, qui est important pour la repentance. Il dit encore, verset 11, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et verset 20 que j'aime beaucoup, il se leva et alla vers son père. Bien-aimé, j'insiste là-dessus parce que entre la résolution qu'on prend parfois et la réalité, la mise en exécution, je peux vous dire qu'il y a un boulevard qui les sépare. Combien de bonnes résolutions n'avons-nous pas pris? Combien de bonnes résolutions chaque année, le 31 décembre, 1er janvier, il y en a qui disent, bon, moi, allez, comme ça, moi, je ferai ci, moi, je... Ah, ben oui, ça, c'est le discours. C'est le discours. Mais la réalité, ce sont les actes que tu poses. Et on nous dit quoi au verset 20? Et il se leva et alla voir son père. Comme il était encore au loin, son père le vit, et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, on voit hein, tout ce qui s'est dit. Il dit maintenant j'irai, je lui dirai ça en face. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez. Voilà, on peut continuer la lecture. Alors, qu'est-ce qu'on veut donner comme ressortir comme trésor de ce texte sur la repentance? Comme on a dit, hein, c'est que le fils a pris la décision, mais il a exécuté aussi cette décision-là. Il est allé jusqu'au bout de sa démarche. Mais vous savez, il dit quelque chose. Il dit, puisque j'ai commis une faute, puisque j'étais déshonoré, puisque j'ai été indigne, alors ne me considère même pas au niveau où j'étais. Considère-moi plus bas. Bien-aimé, c'est ça la repentance. Vous savez, un cœur repentant, ce n'est pas un cœur qui revendique. Il n'est pas dans la revendication. J'insiste là-dessus. Regardons bien dans nous-mêmes, nos vies. À partir de là, on va voir telle chose, est-ce que je me suis repenti véritablement? Un cœur qui se repent ne revendique pas les choses. Il ne revendique pas. Il va venir quelqu'un, voir quelqu'un pour dire, bon, j'ai fait ça. Ok, ah bon, tu as fait ça, ok, bon. On va en parler à tel. Il y en a de, oh, non, mais voilà, moi, je pensais que c'était confidentiel. Mais non, mais toi, tu va jusqu'au bout. Accepte, quand il dit, considère-moi comme l'un de tes mercenaires, ouvrier. Vous savez, il y a une différence entre un ouvrier et un mercenaire. C'est que l'ouvrier, parfois, il y a un contrat qui vous lie. Il y a un contrat, j'ai besoin, j'ai envie de construire une maison, ben, j'emploie une entreprise de maçonnerie ou de peu importe, plaquiste. Il y a un contrat, bon, allez, les travaux vont se faire sur un an, sur deux ans, voilà. Mais le mercenaire, c'est quelqu'un qu'on emploie ponctuellement, pour un besoin ponctuel. C'est-à-dire que le contrat peut se terminer le jour même. On se rappelle, hein, lorsque Jésus parle de la parabole des ouvriers, il dit que le maître a pris tel, il s'est entendu, allez, on va travailler comme ça, l'autre pour une heure, l'autre... En fait, c'est ça un mercenaire, c'est-à-dire que quelqu'un... Et ce sont des choses qu'on voit beaucoup moins ici en Europe, hein, mais en Afrique, c'est fréquent. Il y a des places publiques où, sur un rond-point, Il y a tous les ouvriers, tous les je sais pas comment on peut dire ça. Et voilà, il y a des électriciens, chacun est là avec ses outils sur un rond-point. Et le patron, le monsieur qui arrive, il dit tiens, j'ai besoin d'un plombier. Le plombier est là, voilà, il a son contrat pour la journée. Et ce sont des choses qu'on voit pas ici parce que tout est quadrillé, tout est. Mais en Afrique, c'est fréquent. Tu arrives quelque part, tiens, j'ai besoin de d'un maçon. La personne lève la main, patron, je suis là, voilà. Et c'est des contrats comme ça, c'est des missions ponctuelles. Et le fils dit, écoute, ne me considère même pas comme ton enfant ou les ouvriers, non, mais même comme un mercenaire. C'est-à-dire que si je peux venir chez toi une fois par semaine, ça me suffit. Bien-aimé, c'est ça la repentance, c'est ça. C'est un cœur qui ne revendique pas. Il n'a pas de revendication. Il ne se plaint pas. Il ne se plaint plus. Quelqu'un qui s'est repenti réellement, le traitement qu'on lui accorde, eh ben il accepte. Combien on voit, il vient demander pardon, on lui dit, bon, ok, tu vas demander pardon, mais il y aura quand même des mesures. Ah, ben voilà, voilà. J'ai fait la démarche, mais donc tu t'es pas repenti. Parce que celui qui se repent réellement, vous savez, ça me fait penser à l'histoire de Absalom. Absalom, quand il tue son frère, Amnon, qui prend Tamar, sa sœur. Ensuite, il s'enfuit et Joab, qui est l'aide de camp de David, qui est aussi proche d'Absalom, va voir une dame pour dire à la dame, parce que David, à ce moment-là, puisque la loi disait que celui qui tue doit être tué aussi, et Joab va voir une dame pour dire à cette dame, écoute, viens, va voir le roi et va lui raconter une histoire. Dis au roi que tu avais deux fils et l'un des fils a tué son frère. Et lorsque la famille a appris ça, la famille s'est mise en colère et cherche à tuer ce fils-là. Maintenant, la femme dit à David, elle raconte l'histoire à David. Bon, David est bloqué. Puisque la femme, qu'est-ce qu'elle demande à David ? Mais moi, j'ai déjà perdu un fils qui a tué l'autre. Maintenant, le fils qui me reste, on veut aussi le tuer. Mais moi, j'ai déjà tout perdu. Maintenant, j'ai le chagrin de mon fils qui est mort. Maintenant, on veut tuer aussi. David dit à cette femme, ok, d'accord, bon, va chez toi. Comme c'est moi le roi, je veillerai à ce que ton fils ne soit pas tué. La femme, non, David comprend, il dit à la femme, oh, toi, ce que tu dis là, est-ce que ce n'est pas Joab qui t'a envoyé ? Vous voyez que David, donc, la femme piège David, parce que David, lui, il voulait faire justice par rapport à Amnon, son fils, qu'Absalom a tué. Et il comprend qu'il a été piégé. Donc la femme lui dit en quelque sorte, ben écoute, si tu as rendu justice comme ça, c'est que tu dois aussi pardonner à ton fils Absalom. Et là, il comprend, il dit, ah, je me suis fait piéger. Il fait venir Absalom. Mais il dit, je vais faire venir, mais il sera en résidence surveillé. Il n'aura pas à me voir, il verra pas le roi. En fait, c'est comme une punition. Mais vous savez ce qui se passe ? Parce qu'Absalom se met en colère. Déjà, tu reviens déjà, on te tolère. Non, mais c'est pas possible, moi le fils du roi, le roi ne veut pas me recevoir. Mais c'est pour ça que je prends cet exemple-là, pour nous montrer que quelqu'un qui se repent, il n'a pas de revendication. Il s'est fait petit, tout ce qu'on lui donne, il le prend. Il ne revendique pas. Et c'est ça la véritable repentance. Mais vous voyez ce que je dis ici, ça ne cadre pas avec le christianisme aujourd'hui, hein, où les gens sont dans les réclamations, dans les revendications. Tu es le fils de Dieu, tu es chrétien, vous êtes des têtes, vous êtes ceci, vous êtes des rois, vous êtes... Et bien aimé, vous savez, le vrai serviteur de Dieu, il n'a aucune revendication. Il sert Dieu parce qu'il comprend que servir Dieu, c'est un privilège. Il sert Dieu parce qu'il comprend que servir Dieu, c'est un honneur. Bien aimé, vous savez que le président de la République vienne te confier une mission en te disant, monsieur, tel, je vous confie telle mission. Mais vous savez, l'honneur que tu as, que le président te confie une mission, c'est beaucoup plus grand que la rémunération. Je pense que même si on te dit, tu ne seras pas payé, mais l'honneur que le président te fait de te dire, monsieur, je vous invite à l'Élysée, j'ai une mission à vous donner. Mais rien que ça, je peux vous dire que ça te rassasie. Rien que ça, ça te... Voilà, c'est fort. Et bien aimé, à combien plus forte raison nous, qui sommes les serviteurs de Dieu très haut, de Dieu tout puissant, à combien plus forte raison l'ouvrier du Seigneur. Est-ce que je dis là, je n'invente pas, hein, c'est Luc 17 où le Seigneur parle de cette histoire en disant le maître, le serviteur vient, il sert le maître. Est-ce qu'il va s'attendre à ce que le maître lui dise « Ah, bravo, tu as été... » Non, non, non. Il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qui est normal, de servir son maître. C'est normal. Il ne va pas attendre que le maître lui dise « Bien, très bien, bravo. » Non, il fait ce qui est normal. Et nous, c'est la même chose. Et un cœur repentant, c'est un cœur qui ne revendique pas. C'est ça, les cœurs purs. Il se contente de dire ce qu'il a fait. Il se contente de prendre des mesures. Et le traitement qui lui est infligé après, il accepte parce que il comprend que c'est ça la justice de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, quand on dit à David que l'épée ne sortira pas de sa maison une fois qu'il a péché avec Bathsheba, vous savez, David n'a pas insisté pour dire « Oui, mais comment ?» Non. Il accepte le jugement de Dieu, puisqu'il a mal fait. Quand il fait le dénombrement, il est convaincu de péché. On lui dit, écoute, choisis trois fléaux. La peste, ou alors être livré à tes ennemis, ou la famine. David, non, 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 je préfère encore moi être dans les mains de Dieu, livré entre les mains de Dieu, que... livrer entre les mains des humains, qui sont cruels et impitoyables. Mais David accepte cela, bien-aimé. Un cœur pur, c'est un cœur, c'est une attitude repentante. C'est un cœur qui se repent, qui ne revendique pas, qui accepte. C'est comme ça. Un cœur pur, un autre point, bien-aimé, on n'a pas beaucoup de temps. C'est un cœur, bien-aimé, qui sait accepter la vérité, même quand ça fait mal. Il accepte la vérité. Il accepte la vérité, même quand ça fait mal. Vous savez, dans Jean 6, lorsque le Seigneur, à partir de verset 60, jusque plus bas, Jésus dit à un moment donné que ma chair est une nourriture agréable, il faut la manger. Mon sang est un breuvage. Il faut le boire. Mais les gens se disent, mais le monsieur, il débloque, il devient fou. Donc on devient des cannibales, maintenant on va manger la chair humaine. Bien évidemment, on nous dit dans ce texte que les paroles que Jésus donnait, c'était, voilà, il dit, mes paroles sont esprit. Et on nous dit à ce moment-là, plusieurs des disciples qui suivaient sont partis. Et Jésus regarde les apôtres, il dit, mais... vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre a dit, écoute, nous avons connu, nous avons compris et nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous restons attachés à toi. Et c'est ça un peu ce que la sœur Chantal a dit tout à l'heure. Quelles que soient les situations, on reste attaché au Seigneur. C'est ça un cœur pur bien-aimé, qui accepte, même quand la vérité fait mal. Il accepte parce qu'elle fait mal, puisque c'est pour notre bien. C'est ça, bien-aimé. Et souvent, on a du mal avec ça. Quand ça pique, quand ça nous fait mal, on va chercher d'abord aussi la faute chez l'autre. On se dit, oui, mais lui-même qui parle là. Pourquoi il se permet de... Mais lui-même, est-ce qu'il est irréprochable? Mais lui-même, non. La question, c'est pas, est-ce que lui... Non, parce que Dieu peut utiliser même un malfaiteur, un voleur pour te parler. Le plus important, c'est d'entendre la voix de Dieu. Et souvent, on fait preuve de mauvaise foi. Un cœur pur, c'est celui qui sait reconnaître. Quand on lui dit quelque chose, même si ça fait mal, il accepte. C'est ça, bien-aimé. Il accepte les critiques. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être critiqués. Il y a des gens, quand on fait une remarque, une allusion à quelque chose, tout de suite. On sent de quel bois il se chauffe à ce moment-là. Bien-aimé, non. Jésus, le Fils de Dieu, a été... Qu'est-ce qu'on a dit de lui, Belzébul? On a dit que c'est un démon. Il chasse les démons par le prince des démons. Lui-même, c'est un démon. On a dit ça de Jésus. On a lu le brigand à la croix qui dit, mais toi, tu es le Christ. Mais sauve-toi, sauve-nous. En quelque sorte, il est en train de lui dire, on lui dit, c'est écrit, il a injurié. Bon, on ne sait pas quelle insulte il disait. Mais certainement, mais tu es un zéro. Tu es un poltron, tu es un mou. Si tu étais un dur, mais tu ne te serais pas laissé faire. Alors nous, bien-aimés, à combien plus forte raison nous? Il y en a qui ne supportent pas. Il fait à manger, quelqu'un goûte et il est là en embuscade. Vous savez, à ce moment-là, les oreilles sont tellement exercées pour entendre la moindre remarque. Parfois, ce n'est même pas une remarque, hein. Parfois, la personne goûte, il fait une moue comme ça, la moue avec la bouche. Ah, je ne ferai plus rien. Mais tu as fait par amour, par joie pour le Seigneur, par obéissance à Dieu, ou tu as fait pour avoir des félicitations derrière, bien-aimé? C'est ça la question que le Seigneur nous pose. Si tu as fait pour le Seigneur, mais gloire à Dieu. Quand on te dit, ce n'est pas terrible. Bon, en quoi ce n'est pas terrible? Ça, c'est constructif. Non, c'est trop sec. Ah, d'accord, ok, bon. La prochaine fois, je verrai comment... C'est trop salé. Ah, d'accord, la prochaine fois, je vais doser le sel. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on avance. Il y en a tout de suite qui se braquent. Et vous savez, quand c'est comme ça, tu auras des gens autour de toi qui vont te dire toujours ce que tu veux entendre. Vous savez, la fable de La Fontaine, hein, le corbeau et le renard, on dit que le bon flatteur vit aux dépens. Ah, c'est ça. Le bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Comme les gens savent que tu n'aimes pas qu'on dise non, quand tu vas poser la question, mais comment tu trouves Oh ouais, ça va, hein. Mais il n'y pense pas du tout parce qu'il sait que s'il dit que c'est bon ou c'est mauvais, ça sera encore une bagarre. C'est ça, malheureusement, bien-aimé. Un cœur pur, c'est celui qui sait. Bon, il dit non, non, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas... Ah, ok, d'accord. Mais en quoi ce n'est pas... Ouais, il y a ça, ok, d'accord. Voilà. Il accepte. Ça rejoint la définition de Rodrigue, hein, Matthieu 18. Voilà, être comme des enfants. Voilà. Et l'enfant est en phase d'apprentissage. Il apprend. Et parfois, il marche, il tombe, il se relève, il marche, il tombe. Voilà, il apprend. Et nous aussi, on doit être comme ça, bien-aimés. Acceptons cela. Ayons cette attitude-là. Un cœur pur, c'est un cœur qui sait pardonner, bien-aimés. Qui pardonne. Qui pardonne. Il y a beaucoup de passages qui parlent du pardon. On ne va pas les lire, mais tout simplement nous dire, bien-aimés, le Seigneur dit que si nous refusons de pardonner, lui non plus ne nous pardonne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans Matthieu 6, ce verset-là est grave. Matthieu 6, verset 14. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien aimé, ce texte-là est sérieux. Il est grave. Le Seigneur nous dit que si nous refusons de pardonner, lui non plus ne nous pardonne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le système de fonctionnement de Dieu, Dieu fonctionne, on dit que Dieu est miséricordieux. Dans la miséricorde, il y a cette nature-là à faire grâce à l'autre. Vous savez, comme on dit, hein, quand un président est élu, il a la possibilité, dans ses prérogatives, de gracier des détenus des prisonniers, c'est-à-dire qu'il peut décider en disant, bah tiens, je décide de libérer 10 prisonniers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces hommes-là sont coupables. Mais lui, dans sa fonction, son autorité de président, de l'autorité suprême de la justice, se réserve ce droit-là de dire, bon, tel, je le sors de prison, malgré qu'il soit coupable. Et là, le Seigneur nous dit, si nous ne pardonnons pas, lui non plus ne nous pardonne pas. Le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit que son fonctionnement, c'est le pardon. Donc si nous, nous refusons de pardonner, c'est qu'en réalité, nous refusons son fonctionnement. Et donc, puisque nous refusons de pardonner à l'autre, son fonctionnement à lui, qui est le pardon, la miséricorde, ne marchera pas non plus sur nous. Je ne sais pas si on se comprend. Non? Puisque lui, il fonctionne dans le pardon. Donc si toi, tu refuses de pardonner à l'autre, donc finalement, son fonctionnement à lui ne marchera pas sur toi non plus parce que tu refuses ça. C'est ça, bien-aimé. Et combien nous ne voyons pas parfois des choses qui sont enfouies dans le cœur. Comme on disait tout à l'heure, hein, en parlant de la repentance, parfois, il y a des choses qui ressortent. On prie, on se dit, mais Seigneur, mais tel problème, mais tel problème, mais la jalousie, mais ceci, mais ça, mais la médisance, mais Seigneur, mais délivre-moi. Mais en réalité, le problème, il est beaucoup plus loin. C'est pas juste la médisance. Parfois, en réalité, c'est un manque de pardon. Mais nous, on s'arrête sur, mais je j'arrive pas. Je comprends pas, mais oui, parce que dans le pardon, il y a quoi? Vous savez, quand Jésus est à la croix, il dit, Père, voilà, Père, pardonne-leur, car, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pardon, selon Dieu, c'est considérer l'autre comme irresponsable. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, dans la justice, il y a des gens qui, il a commis un meurtre, mais il relève de la psychiatrie, par exemple. Donc, les experts, bien sûr, vont passer, ils vont dire, bah, donc finalement, cette personne-là ne sera pas condamnée comme une personne lambda. Il n'y aura même pas parfois de procès. Puisqu'on considère cette personne-là comme irresponsable pénalement. Et là, Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un te fait une offense, toi, tu dois considérer que, je ne sais pas moi, la personne t'a giflé. La personne t'a fait du mal. Considère que cette personne-là est perdue et qu'elle a besoin de la grâce de Dieu. Elle t'a fait mal parce que, en réalité, elle est mal elle-même. Elle s'est mal comportée parce qu'en réalité, elle ne supporte pas peut-être l'image que tu peux renvoyer. Jésus dit, ils sont ignorants. Ils ne savent pas. Pourtant, nous tous, nous savons que ce sont des gens qui ont décidé, hein, même quand Pilate vient les voir pour dire, mais qu'est-ce que Barabbas lui dit? Non, ils disent, non, pas Barabbas, Jésus, allez. Pilate leur dit, allez, moi je me lave de toutes ces histoires. Non, ils sont conscients. Mais Jésus dit en priant, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ça peut être compris littéralement dans le fait qu'ils ne savent pas qu'en me crucifiant, c'est là finalement que j'accomplis mon œuvre du salut, mais ils ne savent pas ce qu'ils font aussi dans le sens où ils pensent bien faire, mais en réalité, ils ont perdu le bon sens. C'est ça, bien-aimé. Et bien souvent, on a du mal. Oui, mais il m'a fait ci. Oui, mais il m'a fait ça. Il y a des chrétiens qui vont sortir parfois des histoires 15 ans après. Donc pendant 15 ans, 20 ans, tu as l'histoire au coin de ton cœur. Bien-aimés, le Seigneur dit « Heureux ceux qui ont les cœurs purs ». Le Seigneur nous dit, l'apôtre Paul nous dit « Christ revient chercher une église sans tache ni ride ». Et parfois, toutes ces petites taches-là qui demeurent dans le cœur nous éloignent du Seigneur, bien-aimés. C'est pour ça qu'on fait cette étude de ce soir. Pour nous dire, Seigneur, sonde-moi, purifie mon cœur, aide-moi, Seigneur, à pardonner, donne-moi un cœur qui ne médite pas le mal. C'est ça la prière d'aujourd'hui, bien-aimé. C'est ça la prière d'aujourd'hui. Ne gardons pas les choses au fond de nous. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on ait du mal à pardonner? Parce que quelquefois, on pense être la victime, et d'une légitime ou non, hein, mais on se dit, bon, j'ai subi le tort. Et donc, ça doit être réparé. Et vous savez, c'est ce que les gens viennent dire à cette femme, à Jésus, dans Jean 8, à propos de cette femme adultère. Jésus dit, bon, d'accord, que celui qui n'a fait aucun tort, qui est correct, commence maintenant à faire justice. Et on nous dit que tous, ils ont été accusés par leur conscience. C'est ça, bien-aimé. Donc, quand nous refusons de pardonner, mais sachons aussi que nous, on pense être victimes pour la par rapport à la personne lambda, mais il y a aussi des personnes aussi qu'on a blessées aussi, à notre tour aussi. Donc, si nous, on refuse de pardonner de l'autre côté, mais Dieu non plus ne nous pardonne pas pour le mal qu'on a fait. C'est ça, bien-aimé. Il y a un verset que j'aime beaucoup hein, qui nous dit « Ne te presse pas d'écouter ce que tout le monde dit autour de toi, puisque tu risques d'écouter Ecclésiaste, on va finir là, Ecclésiaste 7, Ou on peut commencer mon verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit. On dit attention. Ne fais pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Oh frère, là-bas ça chauffe. Tes oreilles ont dû siffler, ont dû chauffer, je ne sais pas comment on dit. Vous savez, quand les rapporteurs, là, quand ils rapportent avec une. Il y a un scénario de Hollywood, hein. Ils te rapportent d'une certaine manière. Oh là 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 là, c'était chaud là-bas. Et rien que ça, ça suffit pour te. Et ici, on nous dit attention, ne fais pas attention à toutes les paroles qu'on dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car, verset 22, ton cœur a senti bien des fois que toi-même. Maudit, les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, ne te presse pas de te mettre en colère parce que tu as entendu ceci, cela, 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 parce que c'est sans fin. Un jour, tu risques d'entendre même que c'est ton fils, c'est ton serviteur. Quelle est de choses sur toi? Mais on dit attention, sache aussi, avant de te mettre en colère, que toi aussi, tu as aussi des choses contre les autres. Je ne sais pas si on se comprend. Et vous savez, quand tu lis ça, tu dis, mais qui suis-je pour refuser de pardonner? Moi, j'ai été pardonné. Alors, qui suis-je en retour pour refuser de pardonner? Bien-aimé, c'est ça. Un cœur pur, c'est celui qui accepte de pardonner. Nous allons prier, nous allons nous arrêter là. Et nous verrons si on a la possibilité de continuer plus tard. Mais que ce qui a été donné aujourd'hui puisse nous servir, bien-aimé, à faire un état des lieux, faire un check-up, faire un bilan pour dire, bon, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à Seigneur, accepter ta parole, Seigneur. Tu dis, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur, tu vois combien, Seigneur, nous résistons, combien nous traînons des pieds, Seigneur. Mais, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce aujourd'hui. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Merci pour ton esprit qui agit en nous. Seigneur, merci de purifier nos cœurs. Merci, Seigneur. Enlever, Seigneur, tout ce qui dans nos cœurs n'est pas à ta gloire, Seigneur. Agis, Seigneur, dans nos cœurs. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.